Radio Starberry.
Morning Edition from NPR News.
C'est une sardine de la house.
Radio Jerusalem, people, dis
que se reproduce bien sur la radio.
France Inter. Le 18-20.
Je gagne près de 500 euros par mois en Jordanie. Avec mon contrat au Qatar, je vais peut-être gagner le double.
Il s'appelle Omar, il est jordanien, il va s'expatrier au Qatar pour y travailler. Un programme de partenariat encouragé par la Jordanie qui, en échange de la fuite de ses cerveaux, espère bien voir revenir de l'argent dans les caisses grâce au salaire. Qatari, ce sera l'escale reportage ce soir d'Un jour dans le monde. Sous les radars, et Amélie Perrier qui lève pour nous le mystère des aiguilles dans les fraises australiennes, qui vous parle aussi d'une histoire de bouillon cube au Nigeria et d'une rumeur sur WhatsApp qui tourne horriblement mal au Mexique. 18h50, Le Monde selon Trump, saison 2, et Grégory Phillips en Californie du Nord, ravagé par les incendies avec le début de la tournée rockstar, littéralement, de Michelle Obama. 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four. Et s'il avait raison, tient Donald Trump sur l'OTAN, au moins ça en tout cas, car l'armée européenne, c'est très loin d'être fait. Mais d'abord, c'est pas très loin d'ici, tiens, pour une fois, que nous allons dans une organisation internationale qui parle, entre autres, et aujourd'hui en tout cas, de cybercriminalité, l'UNESCO. On parle de l'UNESCO et sa directrice générale est avec nous ce soir. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Bonsoir Audrey Azoulay.
Bonsoir.
Directrice générale de l'UNESCO. Depuis un an, jour pour jour d'ailleurs, ou quasiment, vous avez parlé multilatéralisme hier au Forum sur la paix. On va y revenir évidemment. Vous avez parlé gouvernance d'Internet aussi cet après-midi. Chez vous d'ailleurs à l'UNESCO, la France a rendu public depuis ce matin un appel pour la confiance et la sécurité du cyberespace. L'Internet de la confiance, ça veut dire quoi, Audrey Azoulay? On a l'impression que c'est presque déjà trop tard. Les cyberguerres, elles sont là, elles existent. On l'a vu tout récemment avec les Russes et avec les Chinois aussi. Donc la confiance dans l'Internet, où est-ce qu'elle va se nicher, cette confiance?
Ce qui est vrai, c'est que l'évolution a été très rapide et je crois qu'on a très mal anticipé et mesuré l'impact de la révolution des données, l'impact de l'Internet sur nos vies. Et on n'a pas, je crois, suffisamment anticipé et pensé des défis qui sont aujourd'hui majeurs, qui sont encore devant nous et pour lesquels on doit amener les valeurs qui sont les nôtres dans cet univers-là aussi.
Mais c'est marrant parce qu'on a l'impression que vous dites « Oh là là, attendez, arrêtez tout, il faut qu'on réfléchisse d'abord et on repartira après. » Mais on ne peut pas faire arrêter tout
avec Internet. Il ne faut pas arrêter, mais il faut simplement... Internet, ce n'est pas un espace de non-droit. La civilisation, les principes éthiques, les valeurs universelles, il faut aussi qu'on les défende dans cet espace-là. Et donc, par exemple, pour une maison comme l'UNESCO, ça veut dire l'éducation aux médias, ça veut dire lutter contre les messages de haine aussi par l'éducation, lutter contre le harcèlement en ligne, notamment pour les élèves, ce qui est un phénomène extrêmement
mondial, pour le coup.
Et très préoccupant. Et puis ça veut dire aussi, pour l'intelligence artificielle, qui va complètement bouleverser nos vies, quel principe éthique on veut se donner, quel socle de valeurs on veut aussi défendre dans cet univers-là.
Mais est-ce qu'on peut réellement parler gouvernance d'Internet? Est-ce qu'on peut parler d'arrêter les piratages? Est-ce qu'on peut parler d'arrêter les messages de haine? Est-ce qu'on peut parler d'arrêter les fake news, les fausses nouvelles, sans la Chine, sans la Russie et sans les États-Unis?
Je crois qu'il ne faut pas se laisser désarmer ou baisser les bras parce qu'il y a une crise politique du multilatéral, parce qu'il y a des grandes puissances qui s'en éloignent. Je pense qu'il faut continuer à avancer, essayer de créer des consensus, de créer des alliances et surtout ne pas arrêter la conversation mondiale. C'est bien déjà qu'il y ait une instance comme ce forum de gouvernance de l'Internet qui soit d'ailleurs pas uniquement entre les États. Mmh. Vous avez aussi la société civile, vous avez des experts du monde entier, vous avez des gens qui viennent des sciences sociales qui sont là. Et après, essayer de convaincre et d'élargir. À l'UNESCO, on peut aussi aller plus loin que ce cercle-là.
Les grands principes, c'est bien. Mais comment on fait concrètement pour être sûr que demain, une grande puissance ne sera pas capable de pirater une élection, par exemple, puisque c'est l'un des thèmes qui a été évoqué ce soir?
Bien sûr, il y a des positions différentes, mais ça a toujours existé. Il y a des grandes puissances qui ont des positions différentes. Il y a des enjeux géopolitiques qui opposent. Il faut pas être naïf, les pays, mais ça n'empêche pas la société civile de travailler, deux, les États qui le souhaitent de pousser des positions, trois, les organisations internationales à s'emparer de ces sujets-là qui sont des sujets modernes et qui sont de la responsabilité aussi de notre génération.
Comment on peut dire à 100% que désormais une élection ne peut plus être influencée par les réseaux sociaux, par Internet, parce que des pirates dans un pays tout entier peuvent faire?
C'est très difficile, mais ça veut dire aussi qu'on a des acteurs, qui sont aujourd'hui les acteurs ultra dominants sur Internet, qui jusqu'à présent n'ont pas été soumis à la régulation.
Donc les GAFA.
Moi, je l'ai vu dans le secteur de la culture de façon criante. On a eu un déplacement de la chaîne de valeur et une perte de rémunération de la création, parce qu'il y a eu une myopie sur l'importance de ces acteurs dans la vie sociale, politique, culturelle. Et je crois qu'il faut réintégrer ça dans le système de régulation. On a su le faire pour les autres médias, on s'y prend très tard aujourd'hui pour Internet, c'est vrai, mais il n'est pas trop tard pour essayer de construire des solutions.
Donc il faut dire à Microsoft, il faut dire à Mark Zuckerberg, à Facebook, c'est de votre responsabilité. Facebook a un peu commencé, ça va un peu mieux, il y a beaucoup de comptes qui sont aujourd'hui effacés. Est-ce qu'il faudrait être coercitif? Est-ce qu'on peut l'être vis-à-vis de ces gens-là par ailleurs?
La régulation et la réglementation, c'est la protection de l'intérêt général. Donc une fois qu'on a défini ce qu'est l'intérêt général, il ne peut pas y avoir d'acteurs en dehors du système, surtout quand ils ont un rôle aussi fort. Alors, bien sûr, ça offre des potentialités, des opportunités nouvelles, mais ce n'est pas exempt de la société, de la civilisation, des principes démocratiques, des principes de la chaîne de valeur culturelle. C'est une évidence. Donc, il y a eu au début, le dialogue, la régulation douce, le soft, les mesures les plus douces. Il y a aussi, à un moment, la nécessité de poser des principes clairs et pourquoi pas de les poser aussi dans le droit international. Donc, si on renonce à nos valeurs et à nos principes dans ces univers-là, on se prépare à un avenir très difficile. Comme ce sont des acteurs mondiaux, la nécessité d'un dialogue mondial, et s'il le faut, d'une régulation mondiale, est plus évidente que jamais.
Et c'est pour ça qu'on vient vous chercher, vous, l'UNESCO et d'autres. D'ailleurs, dans les débats sur le multilatéralisme, on a beaucoup parlé de faire entrer des acteurs comme vous, des partenaires de ce genre-là, des grosses organisations, des ONG. Est-ce que ça veut dire, au fond, que les États disent, nous, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, on ne sait plus le faire, donc il faut le confier à d'autres, il faut le confier aux citoyens. Peut-être que vous réussirez mieux. Allez-y, l'UNESCO, essayez pour voir.
En tout cas, ce que je crois, c'est que il faut absolument inclure la société civile. On ne peut pas avoir un dialogue purement interétatique, surtout quand on est dans un contexte géopolitique où on est dans l'affrontement et où on est dans un monde multipolaire qui en cherche encore à se définir. Donc on a besoin, d'abord pour être sur les sujets de demain et pas seulement les sujets d'hier, on a besoin de l'apport de la société civile. Pour mettre en œuvre aussi les décisions, on a besoin de la société civile. Donc il y a une espèce de bouillonnement qui cherche à former un nouveau partenariat plus inclusif. Et je pense que c'est la bonne direction.
Antonio Guterres, qui était sur France Inter ce matin, parle d'un multilatéralisme moderne. C'est quoi le multilatéralisme moderne désormais?
C'est-à-dire que le monde et les relations entre les États se durcissent. Ce monde-là change. Et en même temps, donc étant en difficulté avec ces modalités de prise de décision, il y a plus de difficultés à avoir des consensus, et on s'en aperçoit sur des questions géopolitiques majeures à travers le Conseil de sécurité. Et en même temps, le paradoxe, c'est que jamais les enjeux n'ont été aussi globaux et mondiaux. Jamais l'évidence que les États ne peuvent pas les résoudre seuls, et que les États ne peuvent pas les résoudre sans la société civile, cette évidence, elle est là plus que jamais. Donc pour moi, un multilatéralisme moderne, c'est d'abord une certaine réforme des institutions du multilatéralisme qui doivent être dans leur temps et qui doivent être efficaces. Et deuxièmement, ça veut dire être sur les enjeux. Et pour ça, il doit plus entendre et faire une plus large place à la société civile. C'est ce qui avait aussi marché, d'ailleurs, si vous vous rappelez, pour la COP21, où la société civile avait une place très forte. Et aujourd'hui, pour la mise en œuvre, on a besoin de cette pression de la société civile.
C'est vrai, et sauf que la COP21 aujourd'hui, si on regarde bien, qu'est-ce qui s'est passé? On est tous très en retard sur les promesses qui ont été faites. Alors oui, la société civile manifeste, oui, la société civile a peut-être une conscience que les politiques n'ont pas. N'empêche que depuis combien maintenant? Trois ans, la COP21, 2015. On est tous extrêmement en retard. Preuve qu'au fond...
Et là aussi, on s'est réveillé très tard. Mais si vous voulez, il faut aussi... On voit le verre à moitié plein, à moitié vide. Bien sûr, on est très en retard. Quand on regarde le climat, mais aussi, moi, ce qui me frappe, c'est la régression de la biodiversité, qui est terrible et qui est un enjeu pour nous à l'UNESCO. Donc, c'est pour ça que je vous en parle aussi. Ouais. On est très en retard. Et comment faire avancer sans cette pression, sans d'abord le travail des scientifiques, qu'on écoute plus les scientifiques, qu'on écoute plus ce qu'ils disaient depuis longtemps, ce qui était en train d'advenir. Comment faire sans la société civile qui met cette pression-là? C'est vrai qu'on est en retard, mais il faut continuer, pousser, il n'est pas encore trop tard.
Audrey Azoulay, vous allez participer à un grand chantier de rénovation de Mossoul, en Irak, reconstruction de Mossoul qui a été entièrement détruite pendant la guerre en Syrie, et notamment la fameuse grande mosquée et son minaret penché. Pourquoi on commence par Mossoul quand on est l'UNESCO?
Je crois que c'est vraiment un endroit très symbolique, parce que Mossoul, avant l'occupation par Daesh, avant ces années terribles, c'était un symbole de diversité. Diversité culturelle, diversité religieuse. C'était la ville en Irak des universités, du savoir. Mmh. C'était la ville du livre. Beaucoup de, il y avait une rue des libraires qui était extrêmement réputée dans le monde arabe. Et tout ça a été délibérément détruit, mis à néant par Daesh, qui avait sur le minaret de cette mosquée planté son drapeau noir. Donc je crois que pour nous, c'est très important pour la communauté internationale, maintenant que Daesh n'est plus là, de soutenir les Irakiens dans la reconstruction. La reconstruction intellectuelle, morale et physique de cette vieille ville. Et ce que fait l'UNESCO, justement, c'est de soutenir, avec l'aide de la communauté internationale, la reconstruction du patrimoine. Ce patrimoine culturel, religieux, qui témoigne de l'histoire de l'humanité, soutenir les universités, la bibliothèque de l'université, soutenir l'éducation, la formation professionnelle.
Et autant que je sache, beaucoup de donations déjà, en fait.
On a réuni... La cause a vraiment, je crois, parlé au monde. On a fait une conférence à Paris en septembre, on a réuni plus de 100 millions de dollars pour soutenir Mossoul et pour soutenir cet esprit de Mossoul, esprit de la diversité.
Et vous la sentez venir, la question qui vient, on a l'impression que c'est aussi une manière de nous faire pardonner, d'avoir si peu fait autour de la Syrie. On parlait de multilatéralisme à l'instant. S'il y a bien un sujet sur lequel le multilatéralisme a intégralement échoué, c'est bien la Syrie. Le Conseil de sécurité parfaitement inactif, 7 ans d'une guerre absolument épouvantable. C'est quand même, pardon, il y a quelque chose d'effroyablement cynique là derrière, en fait, de notre part à tous.
Mais je crois qu'il ne faut pas confondre la responsabilité des États et l'impuissance parfois et le blocage du système multilatéral, parce que le multilatéral va refléter cette division des États. Et cette tragédie syrienne reflète la division des États, pour moi, bien plus que l'échec du multilatéralisme. Et si je prends les responsabilités d'une maison comme l'UNESCO, la maison de la culture, la maison des sciences, la maison de l'éducation, de la liberté d'information, je pense qu'on peut être extrêmement utile au moment, et vous savez que c'est pas gagné, hein, au moment de la consolidation de la paix. Et ça, je crois que c'est une des responsabilités de la communauté internationale, qui, c'est vrai, a beaucoup péché, peut-être dans d'autres cas, mais c'est sa responsabilité d'être là où la paix renaît et où la paix doit être consolidée.
Et c'est ça, en tout cas, selon vous, que nous demande l'Irak avec Mossoul ou aussi la Syrie. Il nous demande aussi ça, en fait, de participer à cette reconstruction-là.
Mais vous ne pouvez pas savoir l'accueil qu'on a quand on parle de cette initiative auprès des Irakiens. Les gens qui sont venus témoigner à l'UNESCO étaient bouleversés. Le prix Nobel qui a été donné à cette jeune femme yézidi qui a souffert le martyr et puis vu souffrir autour d'elle, le fait d'aider au retour des yézidis, c'est quelque chose de majeur pour eux. Donc je crois que la communauté internationale est attendue sur ce type de sujet, c'est sa responsabilité et c'est notre devoir que d'y pourvoir.
Une toute dernière chose, Audrey Azoulay, vous allez mettre en ligne avec l'UNESCO un observatoire des journalistes assassinés. Vous les recensez depuis 1993 et le chiffre, il est de, j'ai noté, 1293, donc 87 années. Ce qui est frappant, c'est que les journalistes qui meurent aujourd'hui, sur des terrains de guerre. J'allais presque dire, on l'a toujours vu, ça.
Mais pas seulement. Pour la première fois, la majorité, ce n'est pas dans les lieux de conflit.
En Bulgarie, en Europe, en parlant de corruption. Il s'est quand même passé quelque chose de fondamentalement différent.
Je suis tout à fait d'accord. Il y a une évolution extrêmement préoccupante. D'abord parce qu'il y a certaines paroles publiques aussi qui sont catastrophiques, qui attaquent le journalisme en général et qui déstabilisent ce qui est un des contre-pouvoirs essentiels dans les démocraties.
Et allons-y, on parle du président américain. Et quand ça vient d'aussi haut, ça dit quand même beaucoup de choses.
On parle de beaucoup de voix qui sont là-dessus complètement décomplexées et qui prennent de grandes responsabilités. On voit donc que ce sont pour la première fois des journalistes locaux et non pas des correspondants étrangers sur des terrains de conflits armés qui sont les premières victimes. Et puis surtout, très préoccupant, et là c'est une tendance qui ne ralentit pas, qui ne faiblit pas, l'impunité. C'est-à-dire que ces crimes, dans 9 cas sur 10, ne sont pas portés devant les tribunaux. Donc il y a une question majeure pour les États, pour la communauté internationale et pour les démocraties. Et là-dessus, donc nous agissons à la fois à l'UNESCO en amont, pour travailler à des législations qui soient protectrices du droit de la presse, pour former les autorités judiciaires, pour former les forces de sécurité, mais aussi quand il le faut pour dénoncer, avec d'ailleurs le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, ces crimes, parce qu'il faut porter les voix, et puis pour soutenir aussi les associations de journalistes et les journalistes pour que les enquêtes qui étaient portées par ceux qui ont été assassinés ne s'éteignent pas.
Et c'est ce qu'on fait notamment à Radio France dans un consortium.
Je vous en félicite.
Et on est très fiers de le faire. Merci beaucoup, Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, en direct avec nous.
Merci à vous.
Merci.
France Inter, Fabienne Sintès, Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde en Jordanie où la situation économique ne s'améliore pas. Résultat, fuite des cerveaux vers le Qatar. Est-ce que la Jordanie essaie de les retenir? Pas du tout. On vous expliquera pourquoi dans un instant. Sous les radars et Amélie Perrier, vous vous souvenez de cette affaire d'aiguilles dans les fraises en Australie? Eh bien, la coupable a été trouvée. Le Monde selon Trump, saison 2 et Grégory Phillips que l'on aura depuis les incendies de Californie sur lesquels Donald Trump a beaucoup tweeté depuis Paris. Le Monde à l'envers et Jean-Marc Faure. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'armée européenne, Jean-Marc, on n'y est pas et là-dessus, pour le coup, c'est Trump qui a raison.
Oui, ça a frité un peu ce week-end sur le sujet entre Donald Trump et Emmanuel Macron et Trump n'a pas tort de dire que les Européens financent assez peu l'OTAN.
Allez, le tour de la planète continue dans le 18-20 de France Inter. Il passe par le Royaume-Uni, Marianne Faithfull et Nick Cave, The Gypsy's Fairy Queen.
Known by many different names, my good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. Follow the gypsy fairy queen. We exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did.
C'est quand même formidable, Marianne Faithfull et Nick Cave, Gypsy Fairy Queen sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Amélie Perrier. Amélie, les rumeurs et légendes urbaines n'ont pas attendu les réseaux sociaux pour faire des ravages.
Mais les messageries instantanées les font courir aujourd'hui encore plus vite. Cette histoire se passe au Mexique, à Acatlan. La BBC nous raconte un attroupement inhabituel autour du poste de police, une centaine de personnes. Une voiture de police passe avec deux interpellés qui vont être mis en prison. La foule accuse les deux hommes d'être des pédophiles. Les policiers répondent, ce ne sont pas des abuseurs d'enfants mais des mineurs délinquants. Mais la foule grossit et la rumeur se répand via la messagerie instantanée WhatsApp. Soyez tous en alerte, des kidnappeurs d'enfants sont entrés chez nous. Et la rumeur enfle et déforme les faits. Les criminels très vite sont accusés de trafic d'organes. Des enfants auraient disparu ces derniers jours. Ils auraient été retrouvés morts, éviscérés. Certains filment l'arrivée au poste en Facebook Live et demandent aux habitants de venir. Et là, la porte du commissariat est forcée, les deux prévenus sortis dehors, lynchés, aspergés d'essence et leur corps brûlé devant la foule qui filme donc avec des téléphones portables, dont cette vidéo qui est complètement insoutenable. La BBC nous rappelle que des drames similaires, Rumeur et Infox, se sont déjà déroulés en Inde, en Birmanie ou au Sri Lanka, et qu'en Inde, WhatsApp est même à l'origine d'une vague de lynchage alimentée par de fausses histoires de pédophiles. Au Mexique, les autorités viennent de lancer des campagnes pour alerter les utilisateurs de WhatsApp à propos de ces rumeurs mortifères.
Et puis Amélie, on se souvient très bien de cette histoire de sabotage de fraises en Australie, ah oui, vous avez déjà raconté.
Oui, on vous en a parlé plusieurs fois ici, hein, sous les radars. C'était en septembre, des aiguilles retrouvées plantées dans les fraises, plusieurs blessés, une paranoïa qui avait envahi toute l'Australie, et ça n'avait rien d'une blague pour le gouvernement et pour la filière.
Some idiot for his own reasons.
Ici, c'est le Premier ministre qui, à l'époque, prend la parole. Un idiot, pour des raisons qu'il regarde, s'est engagé dans un acte de sabotage. Vous effrayez les enfants, disait Scott Morrison. Vous êtes un lâche, vous n'êtes qu'une larve. Et des tonnes de fraises avaient dû être détruites. Le gouvernement avait même modifié la loi pour punir le coupable de 15 ans de prison. La même peine que les détenteurs d'images pédopornographiques ou que ceux qui financeraient le terrorisme. Eh bien, deux mois après, les autorités auraient attrapé la coupable, une ancienne employée d'une ferme produisant des fraises. Son ADN a été retrouvé sur des aiguilles. Elle a 50 ans. Elle a été présentée à un tribunal ce matin qui a refusé de la libérer sous caution par peur de représailles contre elle. Selon la presse locale, elle aurait agi par dépit ou vengeance envers ses patrons.
Incroyable. Au Nigeria, c'est une pub qui rend beaucoup de femmes furieuses.
Une pub pour un bouillon cube.
Who am I? I'm a caregiver. A slayer.
Give them.
A boss lady.
Voilà, on y voit une jeune femme en cuisine, mais aussi aux petits soins avec ses enfants, au travail, en pleine réunion, au marché. Et le bouillon cube, c'est évidemment le secret de cette femme moderne, active, qui réussit tout. La dernière séquence, la jeune Nigériane affirme « J'aime tout ce que je fais ». Alors certains internautes y ont vu la glorification de la femme conquérante, heureuse de réussir sur tous les fronts. D'autres ont dénoncé la misogynie de cette campagne. « Superwoman » ou « super esclave », s'est interrogée la presse nigériane. Cela renforce les stéréotypes dans une société très conservatrice et patriarcale, ont dénoncé certaines femmes. Pour Nestlé, qui fabrique le bouillon, l'enjeu commercial est énorme. 90 millions de bouillons cubes sont vendus chaque jour au Nigeria. L'enjeu sociétal peut être encore plus grand quand le président du Nigeria lance en public il y a quelques années que la place de la femme, elle est dans la cuisine et dans la chambre.
Voilà, on n'est pas sorti des ronces. Merci
de la route,
hein. Beaucoup. Amélie Perrier sous les radars tous les jours dans Un jour dans le monde.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mecca. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
C'est en Jordanie que s'arrête l'escale reportage d'Un jour dans le monde ce soir. La Jordanie dont le taux de chômage frôle les 20%, une dette proche de 100% du PIB, l'économie de la Jordanie souffre. On songe à augmenter encore les impôts, incitant de ce fait la main-d'œuvre à s'expatrier pour trouver de meilleures conditions de vie et de travail ailleurs. Bonsoir Jérôme Borouzewski.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Jérôme, visiblement les autorités jordaniennes ne s'alarment pas de voir les travailleurs les plus qualifiés quitter le pays. Au contraire, un accord vient d'être signé avec le Qatar pour envoyer 10 000 travailleurs jordaniens dans le petit état du Golfe, un programme qui fait un tabac en Jordanie. Vous avez suivi l'un de ses postulants.
Omar veut partir au Qatar. Il vient déposer une demande de visa à l'ambassade du Petit Émirat à Amman. Il a 28 ans et il est titulaire d'un master en biologie.
Je gagne près de 500 euros par mois en Jordanie. Avec mon contrat au Qatar, je vais peut-être gagner le double, presque 1000 euros par mois. Ici en Jordanie, le problème, ce sont les salaires. Ils sont très bas. Il faut consacrer la moitié de son salaire au paiement du loyer, voire plus. Et il n'y a pas beaucoup de travail.
Omar a déjà trouvé un travail au Qatar. Il sera professeur de biologie dans un lycée. Les formalités administratives sont vite accomplies. Et le jeune homme ressort satisfait de l'ambassade.
C'était très facile, ça a pris 5 minutes. J'ai donné mes papiers à la personne à l'accueil. Je suis allé à la banque pour transférer un peu moins de 100 euros à l'ambassade. Et ensuite, on m'a dit, c'est bon, revenez à 14h.
Omar n'est jamais allé au Qatar. Il se rassure en se disant qu'on y parle la même langue que chez lui, l'arabe, et qu'il devrait pouvoir obtenir dans les 3 mois un visa pour sa femme et son fils afin qu'ils le rejoignent. Nous voilà maintenant au ministère jordanien du travail. Le ministère a mis en ligne une page internet sur laquelle les travailleurs peuvent postuler à un emploi au Qatar et déposer leur curriculum vitae. En 4 mois, 180 000 Jordaniens ont candidaté, c'est près de 10% de la population active du pays.
Mohamed Al-Khatib, fourth floor. Chokran.
Mohamed El-Khatib est le porte-parole du ministère jordanien du Travail. Un homme franc, heureux de ce partenariat économique avec le Qatar et très heureux pour les 800 Jordaniens qui ont déjà quitté le pays depuis juin dans le cadre de ce programme de coopération.
C'est bien pour eux parce qu'ils vont recevoir un très bon salaire là-bas. Et ils vont renvoyer cet argent ici, en Jordanie. Et l'économie fonctionnera de mieux en mieux. Nous souhaitons qu'il y ait plus d'offres d'emploi, que ce soit en Jordanie, au Qatar ou dans n'importe quel pays à proximité de la Jordanie.
Et pourtant, la Jordanie et le Qatar s'étaient un peu fâchés l'an dernier, quand plusieurs pays arabes avaient accusé l'émirat du Golfe de soutenir le terrorisme. Il n'y a d'ailleurs plus d'ambassadeur du Qatar à Amman. Mais cela n'est pas très important aux yeux de Mohamed El-Khatib, le porte-parole du ministère jordanien du Travail. Pour lui, les expatriés au Qatar sont avant tout des chômeurs en moins en Jordanie.
We have a very high graduated.
Nous avons beaucoup de diplômés qui sortent des universités, parfois 50 000, parfois 60 000 par an. Le marché jordanien ne peut pas tous les absorber. Il est maintenant de la responsabilité de ces diplômés de quitter la Jordanie pour trouver du travail.
Donc, les envoyer à l'étranger, c'est une solution.
C'est une solution. Ce n'est pas la solution la meilleure, mais c'en est une. Personne ne souhaite s'expatrier, mais parfois c'est nécessaire. Parfois, il le faut.
Ces propos pourraient être interprétés comme un constat d'échec des politiques économiques, mais ils ne font pas débat en Jordanie, où les travailleurs s'expatrient dans les pays alentours depuis des décennies. Ce qui fait débat, plutôt, c'est la mainmise du gouvernement sur la gestion de ses emplois au Qatar. Les cabinets de recrutement en Jordanie regrettent de ne pas pouvoir placer leurs propres candidats dans des entreprises qatariennes dans le cadre de ce programme. Ce chasseur de têtes préfère rester anonyme.
Le ministère jordanien a géré lui-même 800 candidats, ce qui n'est pas juste. On devrait être impliqué dans ce processus, mais le ministère nous maintient à l'écart.
Est-ce que vous pensez que le ministère fait cela pour que les Jordaniens se disent que le gouvernement fait quelque chose pour résoudre le problème du chômage dans ce pays ?
Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais alors, à quoi on sert, nous ? Ils font cela pour eux.
Le gouvernement, les agences pour l'emploi, les chasseurs de têtes s'arrachent donc les candidats au départ, expatriés de la main-d'œuvre. Voilà un secteur porteur en Jordanie. Les autorités espèrent même que ceux qui sont déjà partis ne reviennent pas. Orai Barrantawi est le directeur du centre de recherche en sciences politiques Al-Quds à Amman.
Notre principale crainte aujourd'hui, c'est de voir cette main-d'œuvre jordanienne établie dans les pays du Golfe revenir s'établir au pays. À cause de la crise dans le Golfe, il y a là-bas beaucoup d'Indiens, d'Asiatiques, de Latino-Américains qui sont en concurrence avec les Jordaniens sur le marché du travail. La période pendant laquelle les pays du Golfe étaient dépendants de la main-d'œuvre jordanienne est terminée. Tôt ou tard, les pays du Golfe s'appuieront uniquement sur leur main-d'œuvre locale. Et si beaucoup de Jordaniens rentrent au pays, ce sera un cauchemar pour la Jordanie.
Un cauchemar pour les chiffres du chômage, car ces expatriés sont nombreux. Environ 600 000 Jordaniens travaillent actuellement en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et au Qatar. Ils renvoient chaque année plus d'un milliard de dollars au pays.
Plus les cerveaux s'en vont, mieux on se porte. Jérôme Borouzewski avec nous en Jordanie pour le 18-20. Merci beaucoup. Et merci aussi de nous écouter dans Un jour dans le monde. Ne change rien. Dans un instant, nous sommes aux États-Unis avec Grégory Phillips. Voici The Roots sur France Inter avec Cody Chestnut, The Seed.
Now
The Roots, accompagné par Cody Chestnut pour ce morceau qui s'appelle The Seed sur France Inter.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Sintès.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Le Monde selon Trump, saison 2, Grégory Phillips. Grégory, bonsoir, vous êtes en...
Bonsoir Fabienne.
Californie, au nord de Sacramento, sur le front des incendies. On sait que Trump, votre président, était à Paris ce week-end, évidemment, mais à distance, il a suivi les développements dramatiques de ces dernières heures sur la côte ouest où vous êtes.
Oui, depuis Paris, Donald Trump suivait évidemment l'évolution de ces incendies, puisque vous savez que ces feux sont maintenant les plus destructeurs dans l'histoire de la Californie et parmi les plus meurtriers, avec déjà une trentaine de victimes. Et donc samedi, Trump tweet et à des milliers de kilomètres d'ici provoque la polémique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il accuse l'État de Californie de mal gérer les forêts de la région. On dépense des milliards de dollars pour ça chaque année, écrit Trump, et résultat, autant de morts si ça continue. On va couper vos financements. Attaque donc du président contre un État évidemment démocrate. Ça a provoqué la fureur du gouverneur élu et du patron des pompiers de Pasadena qui hier soir sur CNN a répondu ceci au président.
Nous avons besoin d'un président qui va se mobiliser et travailler avec nous. Je lui demande vraiment de venir, lui et son équipe, en Californie, pour découvrir et savoir ce que l'on affronte ici. Nous avons des milliers de pompiers mobilisés, tout comme nos partenaires de la police. Ils mettent leur vie en jeu pour nos concitoyens.
Voilà, au total, 4000 pompiers mobilisés sur le front de ces incendies exceptionnels. 31 morts, dont 29 dans la ville de Paradise, où je me trouve ce soir, et près de 200 habitants, dont malheureusement on reste ce soir sans nouvelles.
Voilà, et on vous retrouvera bien sûr pour en parler dans le journal de 19h, Grégory, avec Sébastien Paour. Je voudrais qu'on en vienne maintenant à l'événement éditorial, people, politique, un peu tout de la semaine aux États-Unis. Ça se passe demain, la sortie des mémoires de Michelle Obama. L'ex-première dame, Grégory, a droit à un traitement de rockstar réellement pour la sortie du livre.
Alors oui, vous avez raison, on en a déjà parlé ici. Une tournée des stades, ça commence demain soir à Chicago pour donc la sortie de cette autobiographie intitulée Becoming. Énorme plan média aussi. Ça a commencé hier soir sur ABC. L'ex-première dame interrogée notamment sur ce qu'elle pensait de la présidence de Donald Trump.
Être le commandant en chef, c'est un boulot très dur. Il faut être discipliné. Vous devez lire, avoir des connaissances, connaître l'histoire. Vous devez faire attention à vos propos. Mais ce sont les électeurs qui prennent ces décisions. Et une fois qu'ils ont parlé, il faut vivre avec.
Et en vérité, dans le livre dont on a lu les bonnes feuilles, Michelle Obama est encore un peu plus tranchante, évoquant la polémique, vous savez, sur le certificat de naissance de son époux, lancé à l'époque justement par Trump. Elle dit qu'elle ne lui pardonnera jamais. Trump, écrit Michelle Obama, a mis sa famille en danger en laissant penser que son époux n'était pas né aux États-Unis et donc pas un vrai Américain. C'était fait exprès, dit-elle, pour exciter des cinglés. C'est ce qu'écrit l'ex-première dame.
Et puis une dernière chose, Grégory, c'est vrai que c'est très américain. Michelle Obama parle beaucoup de sa vie privée, de son couple, et ça va même jusqu'à la conception des deux petites.
Oui, parce qu'au long de ces 426 pages, Michelle Obama raconte aussi des choses effectivement très privées. Son enfance, ses études, sa rencontre avec Barack et puis ses difficultés pour avoir ses deux filles et le recours à une fécondation in vitro. Vous avez raison, c'est tellement américain, les confidences de la première dame sur ce sujet, disons, intime. Écoutez un extrait du livre lu par Michelle Obama pour la radio publique NPR.
For me and Barack, this was as surprising as it was disappointing.
Pour moi et Barack, c'était aussi surprenant que décevant. Peu importe à quel point on essayait, je n'arrivais pas à tomber enceinte. Pendant longtemps, je me suis dit que c'était un simple problème d'emploi du temps. Le résultat des allers-retours à Springfield de Barack. Nos tentatives de procréation n'avaient pas lieu au moment des pics hormonaux mensuels, mais plutôt selon l'agenda législatif de l'Illinois.
Voilà, ça s'appelle Becoming, devenir. Ça sort demain, la première autobiographie de Michelle Obama. Notez que le couple Obama, pour deux livres, a signé un contrat d'édition record estimé à peu près 60 millions de dollars.
Et ben voilà, c'est une sortie mondiale d'ailleurs, autant que je sache pour le livre de Michelle Obama. Également, on retiendra cette phrase, hein, une fois élu, il faut faire avec. Grégory Phillips avec nous, merci Grégory.
Le 18-20, Fabienne Sintès. sur France Inter.
Le monde à l'envers de Jean Marfour. Jean-Marc, les commémorations du 11 novembre ont donc été l'occasion d'une passe d'armes, une de plus, entre Emmanuel Macron et Donald Trump sur la proposition française de créer une armée européenne. Le président américain a parlé de propos insultants. Il a rappelé les Européens qu'il fallait qu'ils financent mieux et plus l'OTAN. Et dans votre monde à l'envers, vous vous dites que Donald Trump n'a pas tout à fait tort, parce que l'armée européenne, franchement, c'est pas pour demain.
Alors entendons-nous bien, d'abord sur le papier, l'idée d'Emmanuel Macron se défend, et la ministre des Armées, Florence Parly, a raison quand elle prédit « on ne pourra pas éternellement s'abriter derrière le parapluie de défense américain ». Je m'explique à quoi ressemble aujourd'hui notre environnement géopolitique. C'est un monde où les dépenses militaires augmentent, où les pays du Golfe, l'Inde, la Chine ne cessent de s'armer davantage, où la Russie, on l'a vu, montre ses muscles avec des manœuvres d'une ampleur sans précédent, et où les États-Unis donnent de moins en moins de gages sur leur alliance avec l'Europe. Donc oui, dans ce paysage, envisager une armée européenne paraît sensé pour assurer notre propre défense. D'ailleurs, pas seulement une force commune de projection sur des théâtres d'opérations extérieures, mais bien une défense commune. Et Paris aurait très bien pu assumer, soit dit en passant, cette position jusqu'au bout, en évitant de se lancer dans des explications un peu filandreuses après les critiques de Donald Trump. C'est un projet politique cohérent qui peut s'assumer. D'ailleurs, lors du sommet franco-allemand de Meseberg en juin dernier, on avait posé les bases industrielles d'une telle politique avec des projets de chars franco-allemands et de nouveaux systèmes aériens pour trouver les héritiers des Rafales, des Eurofighters, etc. Dassault, Airbus, Nexter, KMW sont autant d'entreprises françaises, européennes, allemandes qui sont capables de mener à bien ces projets. Donc, sur le papier, on peut défendre cette idée d'armée européenne.
Mais donc, quand vous dites sur le papier, ça veut dire que dans les faits, c'est pas pareil.
Disons que dans les faits, et c'est là que Donald Trump reprend la main, il y a loin de la coupe aux lèvres. D'abord, ces projets vont prendre beaucoup de temps parce que les programmes militaires se font sur le temps long. Comptez au moins 20 ans, voire davantage, pour voir apparaître ces futurs chars ou avions franco-allemands. Et encore, si tant est que d'ici là, évidemment, aucun gouvernement, ni à Paris ni à Berlin, ne remette ces projets en cause. En tout cas, c'est le premier bémol, l'armée européenne n'est pas pour demain. Deuxième bémol, le paysage militaire aujourd'hui en Europe est très hétérogène. On compte au total, selon les pays, plus de 50 systèmes d'armement terrestre différents, pas loin de 20 types d'avions de chasse, et ces équipements militaires, pour près de la moitié, sont achetés aux Américains. Par exemple, la Belgique, qui semble décider à choisir le F-35 Made in USA plutôt que le Rafale français. Troisième bémol, le principe même d'une défense européenne commune compte beaucoup d'adversaires à l'intérieur du continent, des pays qui veulent garder leur souveraineté sur le sujet. La Pologne, la Suède, la Finlande, par exemple, ne veulent pas s'en remettre à l'Europe pour se défendre contre une éventuelle agression russe. Enfin, cerise sur le gâteau, cherry on the cake, diraient les Anglais, le Brexit complique les projets de coopération avec le Royaume-Uni, pourtant un partenaire essentiel, on le sait, en termes de défense. En résumé, on n'est pas rendu, et en conséquence, qu'est-ce qui reste, faute d'armée européenne aujourd'hui ? L'OTAN.
Donc, retour à la case départ.
C'est ça, et c'est en cela que Donald Trump a raison, du moins pour l'instant, encore une fois. L'OTAN reste aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la pierre angulaire de notre système de défense, la seule organisation avec la taille critique suffisante pour qu'on dorme sur nos deux oreilles. Parce que l'OTAN, c'est 4 fois plus de soldats que la Russie, 15 fois plus de budget militaire, 3 fois plus de chars, etc. Mais aussi parce que l'OTAN, ce sont des décennies de procédures installées entre les armées des différents pays, utilisation de moyens conjoints, par exemple les porte-avions. Il y a donc une efficacité militaire naturelle. Et c'est là où Trump a raison quand il dit aux Européens « Vous feriez mieux de payer pour l'OTAN ». Parce que de fait, ce sont les États-Unis qui financent notre protection, 70% de la dépense. Là où les cotisations françaises, allemandes ou britanniques sont 10 fois moindres, voire 15 fois moindres. Donc en attendant une hypothétique et future armée européenne dans, mettons, allez, une génération au moins, en attendant, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que l'OTAN et ce sont les États-Unis qui règlent la facture. Donc désolé de le dire, mais sur l'OTAN, le président américain n'a pas tort de mettre les pieds dans le plat.
Jean Marfour et le monde à l'envers, tous les jours, dans Un jour dans le monde. Merci Jean-Marc, à demain, le 18-20. La suite, c'est le journal de Sébastien Paour et puis le téléphone sonne. Merci de nous écouter, ne changez rien.